Kwai. Bonjour. Alexis Wawanaloat à l'appareil.
Robert Blondin avec lui. Hey, Alexis, il m'est arrivé quelque chose d'intéressant cette semaine, directement relié à notre émission.
Mm-hmm.
Je faisais des réservations dans des campings,
okay,
parce que pour partir cet été un petit peu avec ma petite fille, deux campings,
ouais,
un à Tadoussac, l'autre, comme par hasard, au lac Saint-Jean.
Mm-hmm.
Hein? Et dans les deux cas, quand j'appelle au téléphone, on me répond « Quoi? »
Ah oui, bon.
Ah, c'est magnifique.
C'est deux campings Innu. Un qui appartient aux Innu de Sipit, puis l'autre qui appartient aux Innu de Masayat, je suppose.
Voilà,
okay,
exactement. J'étais absolument ravi. Il se passe de belles choses, dont ce dont vous vous parlez. On va vous parler d'une chose, de la personne qui va participer à quelque chose, puis ensuite, on va parler d'elle personnellement. Avec nous, Daphné Anne Olepika Takpani Kiguktak. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, puis vous?
Ben, ça va très bien. Écoutez, je vois que le premier panel de le YIWA, là, Young Indigenous Woman Action, aura lieu aujourd'hui, en fait, le 8, et c'est vous qui allez l'animer. C'est quoi exactement ce panel-là?
Ben, dans le fond, dans le panel, on va donner la parole à quatre femmes autochtones qui sont assez impliquées à travers le Québec. Olivia Lia Tomasi, Wapukun Mestokosho, Laura Fontaine et Maïté Labrec-Saganache. On va aborder des sujets qui sont importants pour elles, comme le territoire, l'identité, les luttes quotidiennes, puis on va les questionner sur leur parcours inspirant puis leur motivation.
Ah ben, c'est sûrement intéressant. Alors, on va parler de vous parce que j'ai lu, hein, comme beaucoup de gens, un reportage extrêmement intéressant. On peut en l'écouter aussi à travers l'espace autochtone de Radio-Canada. Votre trajet de vie est extraordinaire. On va y aller, on va essayer de nous raconter ça un petit peu. Vous avez été adoptée à la naissance. Pourquoi exactement?
J'ai été adoptée à la naissance parce que ma mère biologique, mon père biologique, il voulait pas vraiment me garder. Puis il venait déjà d'avoir un bébé juste avant moi. Puis là, ma mère biologique elle a comme un peu écouté, puis ils ont décidé de trouver quelqu'un pour me donner, là, pour que quelqu'un d'autre puisse prendre soin de moi.
En adoption. Là, il faut dire qu'on est en 1993, on est à Iqaluit, vous êtes Inuit, non?
Oui.
Bon. Et vous avez adopté et vous avez été, tout jeune, bébé, et ensuite une bonne partie de votre jeunesse, élevé dans la culture du Sud.
Oui, oui, j'ai grandi au Québec par une mère québécoise. C'était elle, ma famille. Puis
pendant ce temps-là, pendant que vous étiez élevée dans la culture québécoise, vous étiez consciente de votre culture d'origine?
Ben oui, puis non, là, comme vous pouvez voir là, dans le récit puis dans le podcast, je savais que je venais de loin, du nord. Mais je savais pas exactement c'était quoi être Inuit, là. Tu sais, j'ai pas vraiment grandi dans cette culture-là. Puis ma mère, elle a fait un effort pour que je puisse avoir un mini-lien avec l'organisation Tasiutlit à Montréal qui réunit d'autres jeunes enfants autochtones Inuits adoptés.
Mais vous avez pas fait d'effort jeune, là, ça vous intéressait pas de chercher plus loin ses origines inuites. Vous profitiez, vous adoptiez à la vie tout court dans le contexte québécois.
C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que j'en avais pas nécessairement conscience.
Ah, d'accord.
Ouais, pour moi, c'était comme normal, c'est plus tard que j'ai réalisé.
Et à quel moment exactement vous avez voulu... Voulez-vous reconnecter finalement avec la culture d'origine?
Que j'ai vraiment voulu me reconnecter avec ma culture d'origine, c'est quand ma mère est devenue malade, que je me suis sentie un peu perdue, puis j'avais de la misère à comme voir mon futur, puis je trouvais ça plate de pas avoir de famille, puis il manquait quelque chose dans ma vie. C'est vraiment là que je me suis dit, ben je vais retourner au territoire d'où je viens, je vais rencontrer ma famille, je vais apprendre sur ma culture.
Il y a eu dans votre famille un drame qui est un drame social, celui de qui est allé à Grésifjord après dans le Nunavut. Là, ce fameux déplacement, il y a eu une déportation dans l'histoire du Canada des Acadiens quand les Anglais les ont mis dehors du pays, mais on a voulu transplanter des Inuits ailleurs que dans leur vallée pour aller sauver ou faire une présence dans le Grand Nord québécois pour des raisons politiques. Ça a été finalement dans votre entourage familial d'origine, ça?
Bien, quand j'ai appris que les gens de Greenfield venaient du nord du Québec, Inukjuak, moi, j'avais associé ça à ma famille. Je me suis dit, ah, sûrement que ma famille fait partie des gens qui ont été relocalisés à ce moment-là. Mais comme on entend dans le podcast, ma famille à moi vient vraiment des gens qui sont venus aider les gens qui ont été relocalisés. Donc, non, moi, je viens pas, ma famille vient pas du nord du Québec.
Là, vous avez voulu retourner à vos origines? Mais ça coûte cher retourner à ses origines, hein? On s'en va pas là à pied, on s'en va pas là à vélo, on s'en va en avion, ça coûte très cher. Et vous avez, ouais, vous avez fait une campagne de sociofinancement, je trouve ça extraordinaire, pour financer votre retour aux sources. Quel courage! Ouais.
Oui, oui, j'ai vraiment eu la chance d'être bien entourée. J'ai des gens autour de moi qui ont décidé de m'aider. On a organisé un show bénéfice. On a fait une campagne de sociofinancement, puis c'est vraiment ça qui m'a permis de pouvoir y aller, parce que ça coûte extrêmement cher, le Nord. Donc, voilà.
Est-ce que le militantisme autochtone, Koué Daphné, Anne, c'est Alex Wawan, à l'Ouest à l'appareil, est-ce que le militantisme, la fibre autochtone, la fibre militante autochtone est venue au travers de cette conscientisation-là, de ces racines-là dans le Nord? Est-ce que c'est venu à l'adolescence pour justement être dans un groupe, ou c'est où on vous a placé dans cette case-là à cause de vos origines?
Non, pas du tout. Depuis que j'étais adolescente, la planète, l'environnement, c'était quelque chose qui était important pour moi. Mm-hmm. J'avais déjà fait des voyages ailleurs, au Sénégal, où j'avais vraiment axé mon travail, mon implication sur l'environnement. Puis la récupération de bouteilles de plastique. Puis c'était vraiment un intérêt personnel que j'avais. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer ici au Québec, contre des projets d'hydrocarbures. J'ai fait des marches, j'ai été sur des conseils d'administration. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on me demandait de parler comme une femme autochtone, que je me suis posé des questions, puis que la recherche de mon identité est devenue vraiment importante.
Je voudrais que vous me racontiez quelque chose qui est particulièrement émouvant dans votre témoignage. C'est la rencontre des trois générations. Dans quelles circonstances ça s'est fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Qu'est-ce que tu veux dire par là, les trois générations?
Quand on vous voit avec votre mère biologique, etc.
Comment que ça s'est passé?
Oui.
C'est sûr que quand j'ai rencontré ma mère biologique, au début, je ressentais un peu de colère qu'elle ait fait ces choix-là, parce que je me suis toujours dit, moi, un jour, si j'ai des enfants, ils vont être ma priorité, puis je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils soient heureux, puis qu'ils soient près de moi, puis qu'ils soient en santé, puis tout ça. Mais je me suis vite rendu compte qu'avec les impacts de la colonisation, des pensionnats, que c'était pas nécessairement facile pour cette génération-là de personnes qui ont vécu ça. Fait que j'ai compris pourquoi qu'elle a choisi de me confier à quelqu'un d'autre. Par rapport à ma famille qui est à Greenfield, quand je les ai rencontrés, pour moi, c'était magique. C'était la première fois que je regardais des gens dans les yeux, puis que je sentais qu'ils faisaient vraiment partie de moi, de mon sang, de ma famille, que je sentais que j'avais une appartenance pas juste physique, là, mais vraiment un lien fort avec des gens.
Ça a dû être une émotion extrêmement forte.
Oui, définitivement. Là, j'ai vécu toutes les émotions du monde là-bas, puis c'était court. Là. 2 semaines, c'était pas assez.
Une émotion qui crée un attachement qui dure?
Oui, vraiment.
Il y a une description que je voudrais, ça va être un peu plus léger, là, que je voudrais que vous nous fassiez, le fameux gâteau d'accueil.
Ouais.
Il est magnifique.
Juste à y penser, ça me rend émue. Oh, je me suis forcée pour pas commencer à pleurer comme un gros bébé à ce moment-là. Là, c'était vraiment beau le gâteau. Je m'attendais pas à ça. C'était une surprise. Bienvenue à l'épicade de toute ta famille. Vraiment, c'était cute de ma tante de faire ça. Là. Je pense qu'ils ont pas réalisé à quel point ça m'a touchée.
C'est beau parce que ces démarches-là, vous les avez faites, vous aviez déjà 25 ans. Et avant ça, vous dites que vous vous évadiez, hein, votre évasion identitaire, ça se faisait dans des romans, dont ceux de Patrick Sénécal, d'ailleurs. Vous avez beaucoup lu pour vous évader.
Oui, j'ai passé mon adolescence à lire des livres. J'ai lu tous les livres de Patrick Sénécal, puis d'autres auteurs français, Maxime Chattan, Bernard Werber. C'est vraiment ça qui m'a amener un peu mon monde imaginaire.
Toutes ces démarches-là, socio-financement, le désir de retrouver ses sources, à un moment donné, ça fonctionne. Vous prenez l'avion, et là, l'avion arrive là-bas. Vos premières impressions n'étaient pas celles qu'on prévoyait, hein?
Ben non. Je suis arrivée là-bas, j'avais pas vraiment de famille. J'ai appris que ma mère biologique, elle avait été adoptée dans une autre famille. Fait que les packs paniques sont à Iqaluit. Je pensais qu'ils pourraient m'aider, mais ils pouvaient pas m'aider. Ils m'ont dit, il va falloir que tu retournes vers les Kehourtak. Il n'y avait pas de Kehourtak à Iqaluit. Fait que je suis allée sur la plateforme une plateforme quand on voyage ailleurs pour dormir chez des gens. Mon Dieu, le nom m'échappe.
Airbnb?
Non, c'est même pas ça.
Couchsurfer?
Oui, exactement, Couchsurfer. Couchsurfing. Puis c'est là que je me suis trouvé un endroit où aller pendant comme 2-3 semaines. La personne elle m'a accueilli chez elle. C'était des Québécois. Puis après ça, je me suis trouvé une job puis je me suis loué mon propre appartement.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes un peu déçu? Est-ce que vous regrettez vos démarches? Vous n'avez pas l'impression d'avoir gagné ce que vous cherchiez?
J'étais vraiment déçue, oui. J'ai pas regretté mes démarches, par contre. La réalité avec Iqaluit, c'est que c'est pas juste des Inuits. Environ 50% de la population, c'est des non-Inuits. C'est sûr que j'étais déçue, mais je me suis dit que j'allais tout faire pour quand même prendre ce que j'étais allée chercher. Puis je me suis inscrite dans une école culturelle, puis Rousselerie, à Clyde River. Puis là, j'étais vraiment entourée d'Inuits, d'aînés. Puis c'était 100% Inuktitut. Fait que, au final, j'ai trouvé ce que j'allais chercher pour me connecter avec la culture.
Après toutes ces démarches, quand même louables, difficiles, émouvantes, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous regardez comme une Inuite, comme une Québécoise qui a retrouvé des origines Inuites, mais qui n'est pas vraiment Inuite. Comment vous vous sentez au niveau identitaire?
Avant d'avoir rencontré ma famille, je te dirais que je me sentais pas tant Inuit que ça. Je me regardais comme quelqu'un qui a l'air d'une Inuit, mais qui est hyper québécoise. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je suis contente de ma vie. Je suis contente d'avoir un background du Québec. Puis je suis contente. C'est quand même le fun d'avoir un but dans sa vie, de découvrir une partie importante de soi-même. Puis non, j'apprécie ça. Ma vie est pas banale, puis elle est pas plate. Là.
C'est pas parce que vous avez redécouvert et accaparé de nouveau votre identité Inuit que vous avez perdu votre identité québécoise pour autant. Vous avez les deux.
Oui. Oui,
Par rapport à votre identité Inuit, est-ce qu'une des prochaines étapes, c'est d'apprendre l'Inuktitut?
Oui, ben je prends déjà des cours d'Inuktitut là, okay. en ce moment, puis depuis un bout avec Montréal Autochtone. Puis là, en plus, je viens de commencer une pièce de théâtre à l'API, puis je dois parler en Inuktitut. Fait que tantôt, en fin d'après-midi, là, je vais répéter avec ma prof d'Inuktitut, justement, pour bien maîtriser.
Je le sais, c'est pas facile. Quand on agit, quand on prend la place médiatiquement, il y a souvent des gens qui viennent nous déverser leur fiel, leur haine. Est-ce que c'est arrivé après cette exposition médiatique que vous avez eue dernièrement?
J'avoue que je suis allée voir les commentaires. La majorité des commentaires, c'était des bons commentaires, c'était du support, puis tout ça. Il y a une personne qui a comme écrit... elle travaille pas. Puis là, j'ai comme un peu réagi sur mes médias sociaux, puis j'ai fait des stories, puis j'ai parlé de comment je me sentais par rapport à ça, parce que j'étais comme un peu étonnée que après avoir lu toute cette histoire-là, la personne elle retient juste que j'ai fait une campagne de socio-financement pour pouvoir aller dans le Nord, puis genre, en tout cas, là, je trouvais ça triste un peu.
Puis est-ce que ça faire des stories comme ça a permis de sortir tout le méchant?
Ouais, vraiment, définitivement. Là, j'avais besoin d'en parler, puis je le regrette pas.
Il y a eu du support qui est venu avec ça, j'imagine, après?
Ah, il y a des personnes qui m'ont écrit.
Ouais. Ben, faut pas lâcher parce que c'est vraiment quand même, c'est vraiment difficile. Surtout en plus, les femmes, vous avez un autre obstacle. Vous avez en plus de tout le racisme, vous avez la misogynie à affronter dans les médias sociaux. Donc,
vous sentez-vous assez solide maintenant pour aider d'autres à faire la même démarche?
100%. 100%. Puis, justement, maintenant, je suis impliquée là, avec Tassio Tibiet. Souvent, ils me demandent de leur donner des ateliers, de raconter un peu mon cheminement. Puis là, tu sais, je travaille la peau de phoque maintenant. Fait que je peux repartager ça, cette connaissance que j'ai appris dans le Nord. Donc, oui.
Dans son nom, il y a toutes ses identités. Merci infiniment, une personne exemplaire. Elle s'appelle Daphné Anne Olepika Takpani Keguktak. Tiens-toi.
Et vous allez me le dire si je le dis comme il faut. Nakourmik?
Oui, Nakourmik. Moi, je dis Huyanami, ça veut dire la même chose. Merci, mais okay. C'est le bien.
Merci beaucoup.
Merci.
Arna Wama. Ino se haitara, nalini haitara. Taimatsa ina nuit in yaravio. Sur l'utakato tit. Puyurta ilgina kipim mangarpit. Arna Wama.
C'était Arnaque d'Elisa P. Isaac.
Alexis, on va commencer par une bonne nouvelle à commenter. D'improbables retrouvailles entre Acadiens et Micmac sur un bateau de pêche. Acadiens et Micmac sur un même bateau de pêche. La scène aurait été improbable il y a quelques années, surtout à Chipagan.
Mm-hmm.
On se souvient, dans la péninsule acadienne, qui avait été le théâtre d'émeutes en 2003, à la suite de l'allocation de quotas de crabes aux communautés autochtones. Bien, le crabier est arrivé, OK, avec une collaboration, et ça s'est très bien passé, 37 000 livres de crabes, ça aide. C'est quand même une belle nouvelle.
Oui, ben parce que avant, on le sait, les Acadiens puis les Mi'kmaq étaient des peuples alliés. Il y a beaucoup d'Acadiens qui se sont réfugiés dans les forêts, qui ont été aidés par les Mi'kmaq pour survivre. De voir justement les tensions dernièrement, c'était quand même assez triste à voir. De voir que les populations non autochtones des maritimes veulent pas laisser de place aux pêcheurs Mi'kmaq pour qu'ils puissent avoir une pêche raisonnable. Puis c'est encore récent, là, on l'a vu en Nouvelle-Écosse l'été dernier où il y a eu des entrepôts de pêche Mi'kmaq qui ont été brûlés, des bateaux percés, donc les tensions sont pas finies entre non-autochtones et autochtones dans ce coin-là, mais bon, ça c'est quand même intéressant à voir, puis on veut espérer qu'on puisse travailler en collaboration.
Il y a des dossiers qui cheminent moins rapidement, toutefois.
Mm-hmm.
L'ensemble du milieu médical qui ne serait pas encore prêt tout à fait à adopter le principe de Joyce. Hein. Après l'appel du Collège des médecins du Québec à adopter ce principe, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec indiquent avoir entamé aussi une réflexion à ce sujet, mais sans trop s'avancer. Ça va pas vite.
Non, ça va pas vite, puis... Dans le fond, le principe de Joyce, c'est de s'assurer qu'on ait une sécurité culturelle, que les gens autochtones, que les personnes autochtones, les Atikameks ou n'importe quel autre membre de n'importe quelle nation puissent avoir accès à des services sans avoir peur. C'est ça, fondamentalement, le principe de Joyce, là.
Mais c'est pas vite à mettre en...
Non, ben c'est pas vite. C'est comme le gouvernement qui veut pas accepter le racisme systémique. Tu sais, ça fait peur, c'est des choses qui sont lentes, comme on l'affirme souvent, mais... Il reste que quand on a à subir ça, cette lenteur-là est quand même frustrante.
Mais c'est difficile de changer quelque chose qu'on déclare ne pas voir, tu sais.
C'est sûr.
Ça, c'est incroyable. Hey, un autre, ça, c'est une belle nouvelle aussi. Devenir médecin dans sa communauté de la Côte-Nord, c'est le rêve d'une jeune Inoue dans les pas du Dr Stanley Volant, là, qu'on connaît bien, qu'elle voit comme un modèle. Anaïs Malek s'apprête à commencer sa première année de médecine à l'Université Laval, loin des siens, pour mieux... y retourner. Déjà dans son tout jeune âge, elle rêvait de ça. Et ça, c'est beau. Il faut que ça se multiplie, ce genre de...
Il faut que ça se multiplie. Il y a les initiatives, les personnels. Donc, cette dame-là qui a sûrement travaillé fort, fort, fort pour se rendre là. Mais il faut aussi, après ça, que les institutions fassent leur pas de leur côté. On voit certaines facultés comme à Laval. Je sais que c'est le cas à Sherbrooke. On m'a dit que c'était le cas aussi à l'Université de Montréal, où on réservait certaines places pour des personnes autochtones. Donc, j'espère que ça ne sera pas juste 3-4 places par session, parce que pour rattraper le retard, il faudrait qu'on en accepte pas mal plus que ça.
Je vais te poser une question qui est peut-être naïve, mais quand on a grandi sur des réserves et qu'on se rend à l'université à faire des études de ce type-là, est-ce qu'il y a un handicap à surmonter ou s'il n'y en a pas?
Ben, il y a un handicap dans le sens qu'on commence la vie dans des conditions souvent socio-économiques défavorables. On le sait que c'est des facteurs qui sont très importants pour l'accès aux études supérieures. Après ça, on a des écoles qui sont sous-financées par rapport aux écoles non autochtones. Voilà un autre élément qui vient jouer contre nous. On a après ça les facteurs, on l'a vu avec le rapport Laurent dernièrement, que les Autochtones sont surreprésentés dans la protection de la jeunesse. Donc, on a des facteurs sur des facteurs sur des facteurs qui s'ajoutent. Justement, quelqu'un d'une communauté comme ça qui se rend à l'université, il faut prendre ses deux mains, applaudir, parce qu'elle a dû travailler très, très fort, la dame.
Restons sur la commission Laurent. T'as raison d'en parler. Le rapport final de la commission sur les droits des enfants, protection de la jeunesse, ça consacre un chapitre aux enjeux concernant les enfants autochtones.
Oui, ben chapitre.
Et ça souligne que ceux-ci doivent faire l'objet d'une attention particulière.
On va s'entendre en tant que chapitre, là. C'est 3 pages. Puis grosso modo, là, qu'est-ce que la commissaire Laurent dit, c'est dans ces 3 pages-là, Les commissions ont déjà fait le travail. La commission vient a déjà fait le travail. La commission sur les femmes assassinées autochtones et disparues a déjà fait le travail, a fait ses recommandations qui devraient être appliquées. Ça fait des années qu'on a ces rapports-là entre les mains. Et on a même la commission royale de 1996 qui a fait une grande partie du travail par rapport justement à la protection de la jeunesse, où on avait des recommandations qui étaient claires. Donc, depuis 1996, on a des solutions entre les mains.
Les solutions, ça fait longtemps qu'on les connaît.
Ouais. Puis, une des meilleures, c'est de laisser, justement, les communautés s'occuper de leurs enfants, s'occuper de la protection de la jeunesse de leurs enfants. On le voit, des communautés qui le font. Les Atikameks, ça leur a pris 20 ans de négociations pour pouvoir avoir leur système de protection de la jeunesse. Ils l'ont eu en 2018. On l'a vu, d'un coup, ça réduit de 80% la judiciarisation des dossiers.
Tant que ça?
Ben oui.
Ben voyons donc.
Ben, c'est à cause qu'on prend en charge dans la communauté. Puis comment le système Atikamekw fonctionne, c'est qu'on va y aller avec un conseil de famille. Il y a un motif d'intervention. On va intervenir dans la famille. On va réunir comme la famille proche, les tantes, les oncles, les personnes intéressées. Là, on leur dit, entre vous autres, vous essayez de trouver la solution pour que cet enfant-là aille mieux, pour que la communauté puis que la famille aille mieux. Ça fonctionne pas là, on va aller vers le conseil des sages. Puis là, on est tout le temps dans le système de mesures volontaires. Puis là, si ça ne fonctionne pas là, on va aller au judiciaire. Puis même quand ça va au judiciaire, les enfants ne sont pas sortis de la communauté. On trouve des familles Atikamekw. Puis si on ne trouve pas une famille Atikamekw, on va trouver une famille non autochtone qui est très, très sensibilisée à l'aspect Atikamekw. Puis on va s'organiser pour que cet enfant-là puisse avoir des services.
C'est revenu, je ne sais pas combien de fois, dans tes commentaires de nos nouvelles à chaque semaine. Toujours, la solution tourne autour de plus d'autonomie dans les communautés autochtones plutôt que d'essayer d'appliquer les solutions des technocrates blancs à Québec.
C'est le gros bon sens.
Gros bon sens, mais tout le monde n'est pas au courant. Hein?
On revient après la pause.
Écoutez Koué Bonjour avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
Éric Pouliot nous revient. Éric Pouliot-Tisdale a une chronique. Tu nous parles de quoi cette semaine?
Aujourd'hui, on va observer certains noms dans le patrimoine montréalais qui ont toute une histoire un peu douteuse par rapport aux relations avec les Premières Nations. Mais tout d'abord, on a quand même des bonnes nouvelles occasionnellement. La rue Amherst, on se souvient que Jeffrey Amherst, en 1763, avait recommandé de donner des couvertures avec des maladies aux Autochtones, le smallpox, donc la grippe. Et puis Amherst, la rue Amherst, en 2019, il y a deux ans, elle a été changée finalement, étant donné le sombre historique de Jeffrey Amherst. Et puis, ça a pris un nom Mohawk, donc Atatakan. Ça signifie un lieu où on se rassemble pour échanger. Donc, c'est un mouvement très, très, très positif qui s'est passé malgré tout. Comme on voit aussi sur nos anciens billets de 10 $, on voyait le ministre du Canada, McDonald. Puis McDonald, lui, c'est le premier qui a instauré les premières écoles résidentielles. Heureusement, on a changé le 10 $ aussi, une autre chose assez positive. Mais malgré tout, McDonald, c'est pas mal lui qui avait instauré la loi sur les Indiens, beaucoup de normes pour que les Indiens deviennent citoyens, les Autochtones deviennent citoyens. Je dis Indiens parce que c'est les termes utilisés dans les archives d'époque et tout ça. Et puis, finalement, M. McDonald, il y a eu beaucoup d'impact parce que la loi sur les Indiens, en 1929, c'est lui qui a pas mal érigé la loi sur les Indiens éventuellement, en 1876 que ça a débuté, mais c'était pas mal sous son joug que ça a été récité et remodifié, toujours pour assimiler les Autochtones. Puis finalement, pour exposer un peu comment ça se passe, les conseils de bande, c'est qu'en septembre 1929, sous un prétexte là, qu'Ottawa s'est prévalu en vertu du paragraphe 1 de l'article 73 de la loi sur les Indiens, dit que lorsqu'il juge utile à la bonne administration d'une bande, le ministre peut déclarer par arrêt qu'à compter de ce jour, d'un jour qu'il a désigné, le conseil de bande comprenant un chef des conseillers sera formé au moyen d'élections tenues par la présente loi. Ça voulait dire que les chefs traditionnels depuis des millénaires étaient mis de côté, finalement, par des chefs qui recevaient une formation du ministère. Donc, ça devenait en quelque sorte un peu comme des mairies, finalement, après. Ça devenait un peu comme des municipalités et des mairies. Donc, ça perdait vraiment tout le cachet traditionnel complet. C'est ainsi que toutes les communautés sont toujours gérées maintenant. C'est toujours des élections aux deux ans. Et voilà. Donc, on voit que le système d'assimilation canadien est toujours en fonction. Donc, les chefs qu'on a aujourd'hui, qu'on voit à la télévision, dans la radio et tout ça, ça n'a rien à voir avec des chefs traditionnels, malgré que certains ont tendance à aller écouter les cercles des aînés et tout ça, mais c'est pas vraiment pas une majorité. C'est devenu extrêmement administratif, occidental. Donc, on parlait tout à l'heure des noms de rue et des noms de personnalités publiques. Oui, le nom de la rue Amherst a été changé, mais si on regarde les stations de métro, il y aurait tout un travail à faire aussi à ce niveau-là. Tout d'abord, en jetant un coup d'œil, disons, sur la ligne verte, Honoré Beaugrand, qui était le maire de Montréal pendant plusieurs mandats, de 1881 à 1885, sauf que le 16 novembre, quand Louis Riel s'est fait pendre, Riel, qui était le chef des Métis, c'est tous les Métis de l'Est de l'Ontario et du Québec, ils se sont tous exodés vers le Alberta, Manitoba, Saskatchewan pour fonder la nation Métis. Et puis, bon, il y a eu une guerre, et puis Louis Riel a été pendu. Et puis Honoré Beaugrand a fêté finalement le décès de Louis Riel. Il a fait un festin finalement pour célébrer la milice du Canada qui ont capturé Louis Riel et pour sa pendaison. Un autre, la station tout de suite après, Radisson, Pierre-Esprit Radisson de Carpentras qui vient de France. Lui, c'est un coureur des bois. Il a été capturé puis adopté par les Iroquois de 1652 à 1653. Il a appris la langue. Il a été comme intégré à la nation pendant un bref moment. Il a passé d'anglais à français, d'algonquin à mohawk, par-ci, par-là. Puis finalement, il est reparti en Grande-Bretagne, puis il n'est plus jamais revenu. Et puis, pourtant, il a été intronisé. Puis tout ce qu'il a fait, c'est de tirer son épingle du jeu pour retirer le plus d'argent qu'il pouvait avec les traites de fourrure. Outre les autres choses qu'il a positives, disons, qu'il a peut-être faites. Ensuite, il y a, disons, le métro Cadillac, qui, lui, s'appelait Antoine Lomé, sieur de la motte Cadillac. Il a fait à peu près la même chose. Il est resté allié aux Français pour faire des coups, disons, aux Iroquois dans la traite de fourrure, là, pour tirer son bénéfice, jusque dans les États du Nord des États-Unis. Et puis, il a fait une grosse cargaison d'environ 176 000 livres de peau de castor en un seul voyage. Donc, c'était vraiment de l'opportunisme là, incroyable. Et puis, lui aussi, il est reparti en France en 1717. Donc, sa contribution, c'était uniquement pour venir faire des sous ici. Une autre station, la station Pinot, lui a affirmé que le pape était infaillible en manière de dogme et de règle, et puis a craché sur le pouvoir civil des Juifs en les traitant de chiens. Donc, il a osé même prétendre que le dogme de l'infaillibilité papale, en quoi ils ont toujours raison lorsque le pape parle. On a également Frontenac, qui a un historique pas mal similaire avec Radisson et Cadillac. il a fait il a amené de l'alcool chez les Abénaki pour les intoxiquer, pour faire des pactes avec les fourrures et des choses comme ça. Papineau, pas si mal. Papineau, il a déclaré que l'esclavage devait être aboli. C'est le premier qui a donné lieu à une série de mesures anti-esclavagistes. Malgré que dans l'historique des propriétaires d'esclaves, sa famille était détenteur de plusieurs esclaves noirs. Mais tout de même, il a promu la loi pour abolir l'esclavage. Bon, c'était quand même un très bon premier geste. Berry de Montigny aussi possédait beaucoup d'esclaves, tout comme James McGill et Peel. Fait que le centre-ville, les gros noms du centre-ville, c'était pas mal détenteurs d'esclaves. Lionel Groulx, dans ses grands élans pour la nation québécoise, a déjà exprimé en 1957 que malgré le dénouement et la générosité des Sulpiciens envers les Autochtones, il s'est permis quand même de porter un jugement très peu charitable pour les Autochtones en les traitant d'un débris de pauvre race. Donc, Lionel Groulx, qui est un très renommé du patrimoine québécois, a pourtant eu ces dires-là. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et oui, on a eu quelques modifications par la Ville de Montréal, changer le drapeau de la Ville de Montréal, changer le nom de la rue Amherst, mais il y a tout un long chemin à faire encore une fois. Donc, en ce qui a trait à la réconciliation, c'est un bon début, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Et puis, bonne route dans les stations de métro de Montréal. Et puis, si vous avez la chance d'aller voir la rue Apatakin, qui était l'ancienne rue Amherst, c'est très intéressant. Et le drapeau de la Ville de Montréal aux alentours de l'Hôtel de Ville. Donc, bonne fin de semaine. Merci beaucoup.
Plaisir de recevoir maintenant Édith Cloutier. Édith Cloutier, c'est une femme de Val-d'Or, une Anishinaabekwe de Val-d'Or, qui est directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or depuis plusieurs années. C'est une femme qui a aidé puis qui a permis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autochtones de se déployer. J'en suis moi-même un exemple. Quand j'étais plus jeune, je suis revenu à Val-d'Or puis j'ai décidé de m'impliquer. Puis j'ai commencé par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, où finalement mes choses n'avaient pas fonctionné, mais Édith était venue me dire « Inquiète-toi pas, on va s'organiser pour que tu sois sur le CA ». Et c'est un peu à partir de ça que tout a déboulé, ma carrière communautaire, ma carrière politique et ainsi de suite. Donc,
tu veux dire que c'est à cause d'elle qu'on est pris avec toi?
Oui, oui, ouais, c'est un peu à cause d'elle qu'on est pogné avec
moi. Merci, madame.
Quoi, Édith?
Oui, c'est un plaisir d'avoir cette belle discussion avec toi, Alexis.
Ben oui.
Hey, on te reçoit aujourd'hui à cause que tu reçois un doctorat, un autre doctorat honoris causa. Ça t'en fait des distinctions. On passera pas 15 minutes toute l'entrevue à les détailler. Mais donc, l'Institut de recherche nationale, l'Institut national de recherche scientifique a décidé de te remettre un honoris causa.
Oui, oui, oui. J'ai eu cette belle nouvelle-là. Il y a quelques mois déjà, mais ça a été annoncé publiquement là, la semaine dernière.
Tu sais, je te connais, ça fait bien des années, depuis sûrement que je suis petit, puis tout ça, mais il y a des bouts de ta vie comme ça que j'ai de la misère à m'imaginer. Comme, était comment la petite Edith? Est-ce qu'elle s'imaginait comme ça faire recevoir autant de distinctions, être directrice du Centre d'amitié? C'était quoi tes ambitions quand tu étais une petite fille?
Eh bien, écoute, moi, j'étais une petite fille qui était extrêmement timide. Je sais même pas comment j'ai pu traverser mon adolescence, mais bien entourée, je dois dire, d'une famille, bien entourée, je dirais, de femmes autochtones fortes. Je pense que quand je fais des retours comme ça, je réalise que la petite fille timide, introvertie que j'étais, était entourée de femmes qui m'ont appris à avoir confiance en moi. Je pense évidemment d'abord à ma mère, une femme extraordinaire qui avait perdu son statut par le mariage avant 1985, lié à la loi sur les Indiens, etc. Donc, je suis de cette lignée de femmes qui ont marché sur la colline parlementaire dans les années fin des années 70, début 80, pour justement militer pour les droits des femmes autochtones. Une autre femme, ma grand-mère, qui a été qui était pratiquement ma deuxième mère, une grand-mère Anishinaabe, très pieuse, très religieuse. Elle a évidemment grandi dans la religion catholique, hein, dans cette époque-là.
Ben oui.
On était influencée par ça, mais qui m'a transmis, aujourd'hui je le réalise, ces valeurs d'entraide, de partage, de solidarité, parce que ma grand-mère était tellement une femme généreuse, bonne. Elle a eu 11 enfants. Donc, je viens d'une belle grande famille élargie. Plus tard dans mon parcours professionnel, j'ai côtoyé des femmes comme Michel Rouleau, qui a marqué les femmes autochtones du Québec comme présidente. J'ai eu des modèles dans le monde des centres d'amitié autochtones. Donc, je pense que ça m'a permis de cheminer puis d'apprendre à avoir confiance en moi puis confiance envers les autres.
Je sais pas si tu te rappelles de mon premier emploi au centre d'amitié, en tout cas où j'avais fait sauter le système informatique, ça avait coûté super cher au centre d'amitié. Tu m'avais donné une autre chance. Toi, ça s'était passé comment ton premier emploi?
Mon premier emploi étudiant, je l'ai eu au centre d'amitié. Donc j'avais 15 ans et moi j'étais dans la cuisine et j'étais aide cuisinière puis je faisais la vaisselle.
Okay.
Donc est-ce que j'ai cassé de la vaisselle? Est-ce que ça coûtait cher au centre à ce moment-là? Peut-être. Mais c'est ça, comme tu dis, on met les pieds dans un centre d'amitié autochtone, peut-être à faire la vaisselle ou à passer le balai, mais c'est beaucoup plus que ça.
C'est de connecter à sa culture.
À notre culture, puis les opportunités. À partir de là, j'ai eu d'autres emplois d'été et je suis devenue moi-même aussi, comme toi. Je me suis fait offrir l'opportunité de participer au premier forum jeunesse des centres d'amitié au Canada en 1983, je crois, l'année internationale de la jeunesse, et donc de découvrir un mouvement qui porte encore les jeunes à se déployer. Puis tu es un exemple, devenu d'ailleurs le premier président du Forum jeunesse des centres d'amitié au Canada, le premier francophone aussi qui parlait français, qui a emmené. Donc on voit que ça porte. C'est pas uniquement ça qui fait de nous ce qu'on est, mais c'est ce qui est beau du mouvement des centres d'amitié. Puis aujourd'hui, ça a été ma vie, ma carrière. D'ailleurs, après mes emplois d'été, je n'ai eu qu'un seul emploi dans ma vie. et c'est celui que j'occupe encore aujourd'hui, 32 ans plus tard, directrice générale du Centre d'amitié.
Oui, ben personnellement, si je peux témoigner un peu, le Centre d'amitié, ça représente justement la culture. C'est quelque chose qui est dans ma vie depuis que je suis tout petit. Mes deux parents ont travaillé au Centre d'amitié de Val-d'Or, donc...
Mon frère
travaille au Centre d'amitié de Val-d'Or, donc c'est quand même très, très, très important dans la vie des Autochtones à Val-d'Or, le Centre d'amitié. Puis, c'est vrai que moi aussi, il n'y aurait pas eu toutes ces structures-là pour pouvoir aller représenter. J'aurais pas autant appris.
Ça nous a fait voyager à travers le Canada. C'est un effet collatéral très positif. J'ai sillonné le Canada de l'est en ouest, du nord au sud, parce que le mouvement est présent partout. Alors, ça, c'est une valeur ajoutée de découvrir par le voyage aussi le Canada.
J'ai une question pour Alexis, moi. Est-ce que Mme Cloutier est aussi sympathique en personne qu'au téléphone?
Ah, oh, peut-être même plus, mais bon, il y a des affaires qu'on ne peut pas parler publiquement.
Non, c'est ça. C'est des secrets scellés.
C'est ça. Mais tu sais, on parle beaucoup de toi puis tout ça, mais le Centre d'amitié, c'est aussi une équipe, n'est-ce pas, Edith?
Ben moi, c'est ce que je dis d'emblée. Recevoir des honneurs ou des prix ou des distinctions, c'est pas ça revient pas à une seule personne parce que de mon côté, c'est impossible de dissocier mon travail, ce que je fais au quotidien, de ce que j'appelle, moi, l'œuvre collective Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or qui s'en va vers ses 50 ans bientôt de fondation. C'est des gens engagés, tant au niveau de la gouvernance, des personnes qui se dévouent sur le conseil d'administration, du personnel, des employés autochtones, non-autochtones, qui travaillent ensemble dans une même mission qui est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones, mais aussi de travailler au rapprochement des peuples, la lutte contre le racisme. Ça se fait pas tout seul dans un coin, ça se fait dans la société, avec la société, donc et une superbe communauté autochtone urbaine à Val-d'Or, dynamique, vibrante, mais oui, avec des réalités puis des défis auxquels justement le centre doit apporter des réponses.
Il y a tellement de développement au Centre d'amitié qu'on n'arrive plus à suivre. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'il y a encore des gros jalons à venir?
Bien, le développement est vraiment conséquent avec la réalité des populations autochtones dans les villes. Ça fait plus de 30 ans. Je peux dire que j'ai vu les choses évoluer, changer, se transformer sur le plan social, culturel, économique. Moi, on m'aurait dit il y a 30 ans, ben Edith, dans 30 ans, le Centre d'amitié va être interpellé à travailler à des solutions à l'itinérance autochtone à Val-d'Or. J'aurais dit, ben non, impossible, jamais de la vie, on sera jamais capable de faire ça, puis ça arrivera pas. Parce que ça se passe à Toronto, ça se passe à Winnipeg, ça se passe à Montréal. Mais aujourd'hui, Val-d'Or vit une réalité sociale qui est liée à l'itinérance, qui a une couleur qui est autochtone. Alors, le développement du centre, c'est qu'on est interpellé par la communauté. Si le centre, son âme vibre au rythme de sa communauté, alors c'est notre responsabilité collective comme centre d'amitié de donner des réponses à l'itinérance. Il y a une problématique de logement, ceux qui connaissent l'Abitibi, puis je pense que c'est partout aussi au Québec, là, on vit des problématiques d'accès à du logement adéquat. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a travaillé un projet de construction de logement social pour héberger des familles. On aurait besoin d'un deuxième.
Mais justement, par rapport à ça, Edith, tu trouves pas ça triste un peu qu'on attende des crises? Il a fallu qu'il y ait une crise policière à Val-d'Or pour qu'on aille les logements ou...
Ben, le projet de logement, c'est vrai. On l'a travaillé pendant 10 ans.
Oui, ça fait longtemps qu'il était là. J'étais encore à Val-d'Or quand on parlait de ce projet de
Quijaté. Il n'y a pas personne qui ne connaît pas Quijaté, même dans le système gouvernemental. Mais oui, c'est désolant, mais en quelque part, le changement social, la transformation systémique, parce qu'on est beaucoup sur ces questions de changement systémique, ben ça se fait. Ça se fait à petits pas, puis Il n'y a personne qui a une baguette magique. Puis oui, c'est vrai que des crises provoquent malheureusement des changements, mais il faut toujours bien avoir travaillé en amont, avoir rêvé, puis avoir réalisé des projets pour atterrir et dire, bon, ben voici, on a des solutions. C'est, moi, c'est un peu l'approche qu'on a toujours eue, c'est de dire, il y a des problèmes, on peut en parler des problèmes, là, on peut continuer de parler de tous les problèmes des Autochtones, on les connaît. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. Et là, voici les solutions en matière d'habitation qu'on vous propose. Voici les solutions en matière de lutte à l'itinérance. Voici les solutions en matière de santé, parce que le centre, ça fait 10 ans qu'on a une clinique en santé autochtone.
Minouin, hein, si je me rappelle bien.
Oui, oui, exactement. Puis qu'on porte à bout de bras. Et là, la crise de Joyce Echaquan, ben, ça a mis en avant-plan
ce modèle-là.
Toute la question de mais qu'est-ce que ça doit prendre. On peut parler pendant des heures et des heures et des jours de mettre en place des processus de sécurisation culturelle, mais on peut rester dans cette théorie-là aussi. Mais nous, on dit, ben, on a des solutions. Voici la solution. Ça fait 10 ans qu'on a un modèle en santé autochtone dans un centre d'amitié autochtone. Il faut maintenant reconnaître, donner aux Autochtones la capacité d'agir. Donc, l'agentivité autochtone qui se traduit par cette prise en main de notre propre destin comme peuple, puis de mettre de l'avant nos propres initiatives, mais pas de le faire dans notre coin, mais de le faire avec le réseau québécois de la santé. C'est ça qui est le modèle aussi. Le modèle, c'est de co-construire avec le réseau, et dans ce cas-ci, un centre d'amitié autochtone, un modèle en santé autochtone qui offre des réponses culturellement pertinentes et sécurisantes.
Donc, si je comprends bien de tes propos, on va travailler à des nouveaux logements sociaux et un agrandissement pour la clinique de santé.
Oui, ben c'est ça. On a un grand projet. C'est vraiment sur la table. On a le plan fonctionnel et technique avec des architectes qui est prêt. On est maintenant à travailler le financement. On a un grand projet d'agrandissement pour relocaliser les services d'hôtellerie dans l'agrandissement du centre.
Ah oui.
On a tout ça. On a les plans d'une vraie clinique en santé autochtone.
Okay.
Dans ces plans-là, on a tout un élargissement de nos milieux de vie, donc un milieu de vie dans le centre d'amitié. Donc, il y a ce projet-là majeur et de rénover le centre. Et on a un autre projet de logement qui est du logement de transition, qui est à l'étude.
Okay.
À la société à la SCHL au fédéral, qui est du logement de transition pour les personnes qui en sortie de rue, hommes, femmes, autochtones en sortie de rue, sortie de prostitution, sortie de détention ou sortie de centre jeunesse. Parce que ça aussi, c'est la réalité qui maintient les gens dans la rue, en marge, c'est pas d'avoir d'accès à. Bon, le logement pour nous va devenir le prétexte parce qu'on va entourer tout ça d'une offre de services en matière de guérison traditionnelle. Ça, c'est un autre projet sur lequel on est en train de plancher qui va être complémentaire à la clinique. Donc, complémentaire aux services classiques là, de première ligne biomédicale, va se joindre à ça une offre de services autochtones, en santé autochtone,
en santé holistique.
Avec des approches, toutes les approches traditionnelles qui peuvent dire ben, d'accès à des aînés, de faire des cérémonies en forêt, d'avoir des journées de ressourcement, donc de travailler
au site culturel Kinawit, ça?
Au site, puis à travers des services du centre, mais le site est effectivement un très, très beau levier pour déployer quelque chose d'assez novateur, une offre de service en matière de guérison traditionnelle qui s'inscrirait dans l'offre de service formelle de première ligne du centre d'amitié, qui, lui, on travaille à la reconnaissance pour l'inscrire dans l'offre de service public québécois. J'en ai encore pour quelques années.
Donc, t'es pas prête de te lancer en politique. Je sais que les partis politiques te sollicitent tout le temps. C'est pas pour cette année.
Ben, non, c'est pas dans mes plans, vraiment. En fait, moi, je sens que je suis vraiment dans les services publics par le fait d'être directrice générale du Centre d'amitié, parce que c'est ce que c'est. Des services à la communauté, puis de travailler à améliorer l'accès à ces services-là, mais aussi à construire ces services culturellement pertinent. Puis ça, ça naît du service public.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûrement là que t'es la plus efficace. Edith, ça a été une belle conversation. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour partager avec nous. Kitty Imigwetch, je te souhaite le meilleur.
Oui. Puis je voudrais juste dire qu'on est vraiment fiers de ton parcours, puis de te voir avocat.
Bientôt.
Puis de voir où t'es rendu. Oui, c'est ça, mais c'est un chemin, un long chemin, mais très inspirant pour nous tous et toutes des Premières Nations. On est très fiers de toi.
Bon, ben, je vais dire à Léonie, ça veut dire merci en Abénaki.
OK, que tu m'égoutes.
Au revoir.
Bye.
Donc, à l'animation, c'était Robert Blondin et moi, Alexis Wawanalowat, en régie, Maurice Bolduc, à la recherche, Claire Guérin, et à la coordination, Louis Garon. À la semaine prochaine!